Nous voyons maintenant donc le gouvernement de Dieu par rapport à l'homme. Il y a quelque chose de tout à fait particulier, puisque c'est Dieu qui crée l'âme directement, sans intermédiaire. La loi des intermédiaires, c'est-à-dire l'ordre des causes secondes, c'était ce qui commande le gouvernement de Dieu sur le monde physique. C'est pas direct, hein. Dieu a fait le monde en pensant, en raison de sa sagesse. La sagesse, alors ce serait très intéressant à creuser, mais c'est pas directement, mais c'est intéressant à creuser. Mettez ça en note. Que la sagesse demande de gouverner les choses matérielles selon un ordre. La sagesse ne conduit pas le monde matériel directement et le conduit selon un ordre. C'est une chose que les savants ont beaucoup de peine à comprendre, parce que les savants ne comprennent pas ce que c'est que la sagesse. Vous savez, même au point de vue théologique, hein, les théologiens, beaucoup de théologiens catholiques ne comprennent absolument pas ce que c'est que la sagesse. Ils sont tellement pris par la science qu'il n'y a que la science. Et sauf que montrer les trois sagesses, c'est pour eux quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et il y a là une réflexion à avoir, qu'on doit faire. Vous voyez, Dieu ne conduit pas directement le crapaud. Ce serait inconvenant au point de vue sagesse. Faire l'honneur au crapaud. Le crapaud est déterminé dans son être. Absolument déterminé. Il y a des ratés, ça oui, à cause de la matière, mais il est déterminé, il reprend. Et c'est ça, être bête. Et on fait comme ça, hein. Quand on n'est pas intelligent au point de vue de sa liberté intérieure, on recommence tout le temps. Et on retourne dans le métier. Au point de vue politique, regardez ce que font les gens. Ils se conduisent comme des bêtes. Ils recommencent toujours. Ils ne comprennent pas. Parce que font la conduire les réalités non spirituelles, les réalités physiques, demandent. La sagesse réclame ça. Alors pourquoi ? La sagesse réclame que le monde physique soit conduit selon un ordre scientifique. Et que le monde physique ne pourrait pas être conduit directement par la sagesse de Dieu. C'est très important, ça, de le comprendre. Parce que on tombe alors dans des erreurs très grandes, vous voyez, les erreurs des... qu'on disait, les rats existent pour qu'on ne dorme pas trop longtemps le matin. Alors, si on reste trop longtemps dans son lit, ils viennent vous mordiller le pied. Et donc, c'est une finalité qu'on applique d'une façon bête à tout immédiatement. Alors que le rat, mais non, le rat, sa finalité... S'il rencontre un obstacle, le pied de quelqu'un, il le mange. C'est évident. Ça fait partie de l'obstacle. Mais il n'est pas créé pour ça. Et alors, on voit très bien toutes les erreurs qu'il y a. Et actuellement, l'erreur de de croire que l'ordre scientifique, c'est l'ordre de sagesse. Vous voyez, l'historien ne peut faire qu'une science approximative. Par les documents. Et les documents, il les interprète. Donc, sa science est toujours approximative. Elle n'a pas la rigueur des mathématiques. Les mathématiques ont une rigueur qui fascine. Et ça, Aristote a très bien compris. Il montre que les mathématiques ont quelque chose de spécial, qu'elles ont un ordre de certitude absolue. Alors, ça fascine. C'est l'ordre mathématique qui remplace l'ordre de sagesse. Aujourd'hui, c'est ça. La rivalité entre les deux. Or, on n'est pas gouverné par les mathématiques. Très facilement, on croit que c'est l'ordre mathématique et l'ordre du monde. Pas du tout. L'ordre du monde est un ordre scientifique par les causes secondes, où il peut y avoir des ratés. Parce que la matière est source de toutes les ratés possibles, la mauvaise ou la bonne fortune. Ça dépend pour qui le reçoit. Celui qui reçoit un mur qui s'écroule devant lui, c'est une mauvaise fortune. Tu vois, dans un accident, il y a eu récemment un accident. Alors, les accidents, la mauvaise fortune, c'est qu'il y ait justement à ce moment-là une auto en face de nous. C'est la mauvaise fortune. Quand il n'y a pas d'auto en face, ça va. Oui. Et la bonne fortune, la mauvaise fortune, ça dépend des dégâts, des conséquences. Mais les causes matérielles implique un ordre, les causes secondes. Le monde physique est conduit par un ordre, et non pas par la sagesse. Donc il faut bien distinguer les deux. Et très souvent, on ne fait pas la distinction. Dieu conduit l'homme, on le verra à un moment donné, il conduit l'homme en respectant sa liberté. Alors, la conduite de Dieu sur l'homme, elle est directe. Parce que Dieu crée immédiatement l'âme. Si vous supprimez le problème de l'âme, ce que aujourd'hui on tend à faire en philosophie, l'homme est conduit comme des objets matériels, comme un animal. Donc, il tombe sous une conduite ordonnée de Dieu selon les causes secondes. On ne voit plus le problème propre de l'homme par son intelligence et sa volonté. Puisque c'est la création immédiate de l'âme qui nous fait comprendre que l'âme est conduite par Dieu selon un ordre de sagesse. Il n'y a que l'homme, par son intelligence, qui peut rejoindre directement Dieu. Et en rejoignant directement Dieu, il comprend ce que c'est que l'ordre de sagesse. Si on ne rejoint pas directement Dieu, on ne voit qu'une seule chose, l'ordre scientifique des causes secondes. Ça, c'est capital pour nous. C'est capital de comprendre ces distinctions et de savoir les appliquer. C'est pas commode. parce que ça intervient toujours dans si nous avons à gouverner, à éduquer des gosses, on doit entrer dans le gouvernement divin. Si on reste uniquement au gouvernement des causes secondes, on éduque d'une façon tout autre. C'est la psychologie qui prend la place de la sagesse de Dieu. Mais si l'âme n'est pas créée, la psychologie règne. Forcément. Et c'est la psychologie qui me fait comprendre comment je dois gouverner le monde. Et je gouverne le monde en psychologue. Si au contraire l'âme est créée directement par Dieu, ce n'est plus la psychologie qui doit régner. La psychologie est là pour montrer les obstacles, pour dénoncer les obstacles. Mais la finalité relève de la sagesse. Donc, vous voyez, c'est quand même... C'est très important de bien saisir ça à la racine. Le lien entre sagesse et science. Le lien entre sagesse et science relève pour quelqu'un dont l'âme est créée directement par Dieu, mais mon âme est créée dans mon corps. Et par mon corps, je suis soumis à la science. Donc, par mon corps, je fais partie de l'univers. Je suis une partie. Je ne suis pas tout dans l'univers. Je suis une partie de l'univers. Je ne commande pas au soleil, je ne commande pas à la lune, je ne commande pas au vent. Je suis partie de l'univers. Je suis une partie. Mais mon âme n'est pas une partie de l'univers. Mon âme peut être en relation directe avec Dieu, même au plan philosophique. Mon âme peut être en relation directe avec Dieu pour ma finalité. Donc, ce qui va distinguer le gouvernement de Dieu à l'égard du monde physique, à l'égard de mon corps en tant qu'il fait partie du monde physique, parce que mon corps fait partie du monde physique. C'est pour ça qu'il y a des lois. Bien distinguer le gouvernement de Dieu par rapport à mon corps et le gouvernement de Dieu par rapport à mon âme. Ce qui est important, c'est que par mon âme, je suis directement en relation avec Dieu. Je ne suis plus sous la conduite de l'ordre des causes secondes. Je le suis encore à cause de mon corps, mais mon âme dépasse. Et mon âme dépasse, elle peut avoir une finalité personnelle. Alors intervient là le problème de la nature et de la personne. Vous comprenez ? En tant que nature, je suis partie du monde et je suis donc soumis aux lois du monde. En tant que personne, je suis directement relié à Dieu et ma fin regarde Dieu. Je suis gouverné par Dieu. Alors, vous voyez, il y aura toujours la distinction entre corps et âme. Et c'est d'autant plus fort que le corps et l'âme sont une réalité. Je distingue, mais je ne sépare pas. Je distingue, mais la réalité est une. Et j'ai donc un double regard, un regard direct sur Dieu, même au plan philosophique. Dieu existe, puisque Dieu est créateur de mon âme. et un regard prudentiel à l'égard, je suis parti du monde. C'est au fond admirable à regarder, c'est mis pour nous, on ne fait pas ça en philosophie, mais nous pouvons-nous le faire ? J'ai le droit de lire l'écriture en philosophe. J'ai le droit de lire le livre de la Genèse en philosophe. Et il n'y a pas aucun livre aussi intelligent sur la famille, aucun livre est plus intelligent sur la famille que le Genèse. Et j'ai le droit de le lire en philosophe. Parfaitement. Le philosophe peut tout utiliser. Il ne le lit pas comme un livre révélé, mais il le lit comme un livre vénérable. Que des générations et des générations l'ont lu. Ça, ne pas avoir ce regard-là sur la Bible, c'est n'être pas philosophe. Le philosophe doit considérer que ce livre est vénérable. Et les francs-maçons le font. Ils considèrent que le livre de l'Écriture est vénérable. C'est même... Et c'est intelligent de regarder ce livre qui a des générations et des générations. Je n'ai pas le droit de le regarder autrement. Donc, je vois cette chose très mystérieuse, c'est que l'âme est unie au corps substantiellement, pas accidentellement, substantiellement. Donc, le corps et l'âme sont un. Alors, vous voyez tous les problèmes qui se croisent. L'âme conduit directement par Dieu, le corps est soumis à l'univers. Et le corps a été soumis à l'univers pendant toute la phase de gestation, où il est soumis à l'univers d'une façon très spéciale. Il y a l'intermédiaire de sa mère, mais sa mère, quant à sa vie végétative, est soumise à l'univers. Et là, un problème très curieux. Est-ce que Dieu, dans le gouvernement divin de Dieu, Dieu peut intervenir directement, Jean-Baptiste ? Mais normalement, Dieu n'intervient pas directement. Il laisse le gouvernement physique pour la formation du corps. Et la formation du corps relève alors évidemment des lois physiques. Et je peux prévoir certaines choses au point de vue physique qui ne vont pas. Et ça, c'est quand même très important. Je connais très bien un chirurgien qui est spécialisé pour, dans la mesure où on le peut, guérir le fœtus, l'enfant, dans le sein de sa mère, de certaines maladies qu'on peut prévoir. Les malformations peuvent se faire dès le sein maternel. Et ce médecin m'intéresse beaucoup. C'est un ami. Alors, il m'intéresse beaucoup parce que c'est très intéressant d'avoir ses confidences en quelque sorte, et ses problèmes. C'est des problèmes qui sont très lourds, hein. Comprenez bien, parce que le fœtus, les organes ne sont pas encore très distingués. Et donc toute opération qu'on voudrait spéciale sur quelque chose de mal formé peut avoir une conséquence sur le reste. Donc c'est très délicat. Et c'est toujours très, très intéressant, ça. Ça fait partie au point de vue intelligence, que la formation du corps relève du monde physique. C'est très, très mystérieux. Alors évidemment, la mer n'est pas uniquement le monde physique. La mer a l'intelligence de qu'elle porte un enfant auquel Dieu a donné une âme. Et Dieu confie l'âme à la mère, puisque l'enfant n'a pas conscience. Et c'est là qu'on voit très bien la manière dont une mère chrétienne attend son enfant et une mère non humaine attend son enfant comme une corvée. Et c'est tout le mystère de l'Avent. La première chose que Dieu a voulu transformer au point de vue chrétien, c'est la mère qui attend son enfant. C'est le mystère de l'Avent. Et c'est fameux, attendre son Dieu. Et c'est le lieu, au fond, entre le point de vue physique et le point de vue divin. Le point de vue physique domine, mais le point de vue divin est présent. C'est toujours la réflexion me faisait, que ma mère me disait, je ne comprends pas ces jeunes mamans chrétiennes qui n'attendent pas leur enfant comme un véritable avant. Dans une période de recueillement où elle est responsable de... Et c'est évident que dans un monde qui se laïcite de plus en plus, bon, la mère qui porte l'enfant, au point de vue laïque, c'est une corvée. Au point de vue chrétien, c'est Dieu qui fait une totale confiance à la mère. Et donc la mère doit répondre à cette confiance que Dieu lui fait. Vous voyez, ça fait partie du gouvernement divin, hein, philosophiquement. C'est le premier moment du gouvernement divin, par l'intermédiaire de la mère. Et c'est voulu par Dieu. Donc la mère doit nécessairement attendre son enfant, non pas comme simplement un phénomène humain, la procréation, comme le sommet du monde physique, et c'est vrai, c'est le sommet du monde physique. C'est la chose la plus grande que le monde physique réalise. Ce n'est pas le crachat des volcans, c'est pas si sommet, ça. Mais attendre un enfant, c'est au point de vue physique, dans le monde physique, ce qu'il y a de plus grand. Et je crois qu'on a un devoir de faire comprendre ça philosophiquement. Il n'y a rien de plus grand que ça. C'est une coopération directe avec Dieu. La mère. Et c'est Dieu et la mère. Et la mère attendant l'enfant, attendant son enfant, l'attend, je le dirais, au nom de tout l'univers. Tout l'univers coopère à la procréation. Et c'est ce qu'il y a de plus élevé dans l'univers. Si je regarde les choses au plan philosophique, hein, l'univers ne fait rien de plus grand que cela. Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre commune de la nature humaine et de Dieu. Directement. Donc, il n'y a rien de plus grand. Après, les autres œuvres que l'homme fait, il les fait aussi avec Dieu, souvent. Mais il y a sa liberté. Sa liberté qui joue beaucoup. Alors, évidemment, dans l'ordre de la sainteté, de la contemplation, c'est plus élevé. Ce sont les deux œuvres substantielles. La procréation et la contemplation. Et donc, c'est les deux œuvres qui sont les sommets de l'univers. Et il faut philosophiquement avoir ce sens-là. Parce que c'est la sagesse qui unit les deux extrêmes. Alors vous voyez, l'œuvre avec la mère, l'œuvre personnelle, au-delà de la nature, qui est la contemplation de Dieu. La contemplation de Dieu, elle se fait dans le monde et au-delà du monde. Tandis que la procréation, elle se fait dans le monde et elle finalise le monde. Mais elle est dans le monde. Je crois qu'il faut bien voir ces deux extrêmes. Les deux extrêmes du gouvernement divin. C'est toujours très, très important de voir tout de suite les deux extrêmes. Le gouvernement divin auprès de la mère qui attend son enfant dans la procréation. Dieu, et c'est cette chose inouïe. Moi, je trouve ça bouleversant. C'est que ce n'est pas Dieu qui commande les parents d'avoir un enfant. C'est la décision des parents. Les parents désirent. Ils s'unissent pour avoir un enfant. Donc, Dieu laisse à l'homme la décision de la création de l'âme. C'est extraordinaire, ça. Comme gouvernement d'amour. Vous voyez, ça peut se comprendre que par l'amour. Dieu s'incline devant la décision des parents. Et répond à cette décision des parents. C'est pas lui. Donc, nous avons commencé d'être grâce à les décisions du choix de nos parents. L'homme commence à exister grâce à l'amour du père et de la mère et de la décision du père et de la mère. Et Dieu a répondu à cela. Donc, toute l'attente du mystère de l'Avent est dans cette lumière-là. Et dans cette lumière-là, elle nous montre l'amour de Dieu créant l'âme. Ce sont les parents. Dieu a voulu que ce soient les parents, les hommes et les femmes, qui aient l'initiative de la procréation. Et que cette initiative leur appartient. Dieu respecte cette liberté. Alors si cette procréation est le sommet du gouvernement de Dieu sur l'univers, vous voyez que Dieu laisse à l'homme et à la femme la décision de réaliser ce sommet, que ce sommet existe. C'est, je crois, ce qu'il y a de plus merveilleux au point de vue du gouvernement divin, au point de vue philosophique. Parce que dans la finalité de la contemplation, nous le verrons, nous essaierons de le voir, c'est évident que c'est l'homme qui a l'initiative. Mais cette contemplation est au-delà de l'univers. Elle est une contemplation philosophique pure. Donc elle est au-delà de l'univers. Elle relève de la liberté de la personne. Tandis que la procréation est dans l'univers. C'est donc en quelque sorte, si on comprend bien, du fait même que Dieu laisse à l'homme et la femme, à l'époux et l'épouse, l'initiative, on peut dire que Dieu remet tout l'univers dans les mains de l'homme et de la femme, de l'époux et de l'épouse, du père et de la mère, puisque c'est la finalité du monde. Et que cette finalité est remise à l'homme. Il y a là quelque chose de très... On ne le dit jamais, hélas. Mais c'est, je crois, quelque chose qui est capital. Et la grandeur de la procréation. Et dans cet acte qui finalise l'univers, l'époux et l'épouse ont l'initiative, et donc ils ont l'initiative sur toute la finalité de l'univers. Évidemment, immédiatement, pas directement, mais en raison du fait qu'ils ont l'initiative de la procréation et que la procréation est la fin de tout l'univers. Il y a donc, pour le gouvernement divin, ce premier acte, qui est un acte de respect de Dieu vis-à-vis de sa créature, l'homme et la femme. Dieu respecte leur liberté de père et de mère et se soumet à cela. Et donc, consacre cette liberté. Vous voyez, je crois que dans notre monde d'aujourd'hui, où on ne comprend plus la grandeur de la procréation, c'est très important de le rappeler, ça. D'une façon ou d'une autre, c'est pas toujours commode, hein. Mais il faut au moins que nous en ayons la sens. Puisque on ne peut communiquer aux autres que quelque chose qu'on a profondément compris, quelque chose qu'on a saisi dans ce qu'il y avait de plus important, pas répéter. Plus les choses sont profondes, moins il faut les répéter, parce qu'on les répète toujours sans comprendre. Alors c'est pire. vaut mieux taire. Mais il y a un mystère. Mais je crois que la révolte de l'homme actuel vis-à-vis de la procréation, une révolte tacite, une révolte de savants, donc une révolte intelligente, mais d'autant plus dangereuse. Il faut saisir, nous, vouloir modifier le mystère de la procréation, vouloir le changer. C'est la révolte radicale de l'homme, analogue à celle de l'ange. Il s'est révolté en face de Dieu. C'est la révolte radicale. Je ne sais pas quelle sera la réponse de Dieu. Ça, c'est... Mais je sais que c'est la révolte radicale. Puisque, vous comprenez, c'est au fond la personne humaine qui refuse la nature dans ce qu'elle a d'ultime, la procréation. La procréation, c'est ce qu'il y a de plus grand, finalité de la nature. Donc, refuser ce mode particulier de la procréation, c'est refuser profondément ce qu'il y a de plus précieux, de plus grand, la finalité dans la nature humaine. Il y a là, je crois, une faute, j'allais dire, une faute métaphysique par rapport à la nature humaine. Ils n'en ont pas conscience la plupart du temps, quoique je crois que certains en ont conscience, scientifiquement. Et c'est, voyez, la faute de notre monde d'aujourd'hui, ça. C'est propre à notre monde. C'est propre à une civilisation qui, scientifiquement, s'est extrêmement développée, qui touche vraiment très loin au point de vue, et qui a quitté le point de vue chrétien. Et qui a quitté le point de vue humain. Il y a comme une révolte de la nature humaine qui veut avoir une maîtrise sur la finalité même de la nature. On ne reconnaît pas que la nature nous est donné, c'est un don. Je n'ai pas choisi d'être un homme, c'est un don pur, je n'ai pas choisi. Et on veut se révolter contre ça, c'est-à-dire on veut tout posséder à notre manière, selon notre manière de concevoir la finalité de la nature humaine. Il y a la même chose au point de vue contemplation. Ça, nous le verrons après. Il y a la même chose. Je crains que certains modes de contemplation philosophique aujourd'hui, soit une révolte de l'homme qui veut posséder lui aussi le secret de la contemplation. Il faut au moins poser le problème, puisque les deux extrêmes se tiennent, la procréation et la contemplation. Au moins du jugement divin. Les deux moments où l'homme touche, en quelque sorte, la dépendance à l'égard de Dieu. créer l'âme, contempler Dieu. Et il me semble que par rapport à la création de l'âme, par rapport à la contemplation de Dieu, actuellement, il y a cette révolte de l'homme qui veut posséder les deux. Et c'est important, puisque ça touche les deux extrêmes. Et c'est normal, d'une certaine manière, que tant que ces deux extrêmes demeurent en dépendance à l'égard de Dieu, l'homme, profondément, demeure en dépendance à l'égard de Dieu. Point de départ, terme. Même si entre deux, il y a des accidents de parcours. Tandis que si vous touchez le point de départ et si vous touchez le terme, il n'y a plus rien. Donc, le gouvernement de Dieu à l'égard de l'homme est tout de suite un gouvernement personnel. Dieu, personne à l'égard d'une personne humaine. Il y aura un gros problème, tout de suite après celui-là, dès que j'ai vu les deux extrêmes, l'apparition dans l'homme de la connaissance et de l'amour, d'où jaillit la liberté. La liberté humaine se comprend à partir de l'amour et de la connaissance. Il faut donc bien comprendre le gouvernement de Dieu par rapport au développement de ma connaissance et au développement de mon intelligence pour comprendre le rôle de Dieu dans son gouvernement par rapport à ma liberté. Dieu, en gouvernant l'homme, gouverne une personne, gouverne une intelligence et quelqu'un de capable d'aimer et quelqu'un capable d'actes libres. C'est sûr que c'est le gros problème du gouvernement divin, le gouvernement du Père. Dieu entend qu'il me gouverne. Quant à ma vie intellectuelle, c'est mon Père. En tant qu'il me gouverne par rapport à ma volonté, c'est mon Père. Par rapport à ma liberté, c'est mon Père. Je crois qu'il faut bien distinguer ces trois problèmes. Parce qu'on ne peut pas saisir la manière dont Dieu gouverne l'homme sans voir ces trois problèmes. Alors, regardons d'abord au point de vue de l'intelligence. Il est évident que le propre de l'homme, avec son âme spirituelle, c'est l'intelligence. Alors, faut-il regarder en premier lieu l'intelligence ou l'amour? Au point de vue du gouvernement de Dieu. Et c'est important de savoir si Dieu continue de me gouverner premièrement comme une mère ou comme un père. Intelligence et la volonté. Il est sûr que Dieu se sert de cause seconde, le père et la mère. Sans aller jusqu'au bout et séparer, il faut, je crois, comprendre que la mère a ce rôle enveloppant, maternel. Qui est premier. L'enfant s'éveille d'abord à sa mère, en second lieu à son père. Mais il y a un éveil à l'égard de la mère qui est évidemment le premier éveil. Et c'est important de comprendre que l'éducation maternelle est première et dernière. Donc, la première éducation, c'est l'éducation du cœur, de la volonté, par la mère. Je reçois la prochaine. Vous voyez, c'était très sensible dans ce dialogue qu'on a eu avec ces néo-ganciens, où on les retrouvait. C'était de comprendre qu'avant la connaissance, il y avait l'amour.